La réalité déçoit, souvent. Et disons que nous sommes plutôt gâtés en ce moment. Mais heureusement, il y a les chansons, qui peuvent nous faire décoller dans un monde parallèle et fantasque. Le répertoire de Michel Polnareff en fait partie. Ces morceaux sont ancrés dans plusieurs époques, autant qu'ils sont romanesques, comme sa vie. C'est l'histoire d'un gamin famélique, surgi en beatnik dans la France des années 60, avant de s'exiler aux États-Unis en gars bodybuildé, bronzé, comme s'il avait un abonnement chez Poissoleil. Aujourd'hui, Pop & Co et Michel Polnareff avec sa flamboyance, ses chutes, son génie et son goût du kitsch. C'est l'un des rares artistes français dont la silhouette est devenue un logo. Chevelure blonde ondulée et lunettes noires à monture blanche. Il n'y a que ça, sans les contours de son visage sur certaines affiches de concert. Mais au-delà de l'image, je vous propose de redécouvrir un répertoire qui compte de la pop symphonique, mais aussi du folk, de la soul, du disco et de la musique synthétique. L'exploration du jour s'étale entre 1966 et 1990. C'est l'épopée d'un homme qui a choisi la musique pop comme une revanche de la jeunesse et comme une revanche personnelle. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
C'est le printemps. Enfin, il paraît. Mais ce jour-là, c'était l'été, nous sommes le 5 juillet 1966. L'émission s'intitule « Vient de paraître », et elle porte bien son nom, puisque c'est dans ce programme qu'un certain Polnareff apparaît à la télévision française pour la première fois. Et le présentateur Franz Priolet surgit présentement sur vos écrans.
Bonsoir, j'espère que le week-end sera comme le bon vin, qu'il s'améliorera en vieillissant. Et puisque le week-end est une petite vacance et que les grandes vacances approchent, eh bien nous allons maintenant voir un garçon qui a les cheveux longs. Il s'appelle Georges Polnareff et il m'a confié que ses cheveux avaient mis un an à pousser. Alors voilà une chose que nous savons maintenant.
Concernant l'année de pousse pour les cheveux, je ne sais pas. Mais pour le prénom, sûr que c'est pas Georges, mais Michel. Fils de Leb Polnareff, dit Léopold, lui-même compositeur pour Piaf, Mouloudji ou Yves Montand. Leb Polnareff tient à donner une éducation musicale classique à son fils. À 5 ans, le petit Michel est au piano.
Je sais pas si tu m'entends là.
Oui, nous l'entendons. Christophe Comte, documentariste et journaliste à Libération, il précise l'éducation musicale de Polnareff Michel.
Une éducation classique, mais agrémentée malheureusement de la part de son père, comme il expliquera plus tard, de coups de ceinturon. Donc c'est une éducation à la dure, quoi. C'est pas même si son père lui était compositeur pour des chanteurs, je pense qu'il rêvait pour lui d'une carrière de concertiste et c'est pour ça qu'il lui a mis des coups de ceinturon sur les doigts, quoi, ce qui était pas très malin. Il y a quelque chose quelque part d'un drame domestique derrière cette façade un peu polissée et ce qui fera que très vite, il abandonnera ce courant classique pour lequel il était probablement assez doué pour tailler la route, se barrer de chez lui et devenir un chanteur de rue, ce qui paraît quand même assez étrange. Mais pour l'époque, début des années 60, c'est pas si étrange que ça. Il y en a beaucoup qui quittent le foyer pour aller commencer une vie qu'on appelle de beatnik à l'époque. Il a échappé vraiment à son au destin que ses parents avaient tracé pour lui.
Discorama, présenté par Denise Glaser, est un programme dans lequel Ilinka Negulesco puise régulièrement pour Pop & Co. Nous sommes toujours là en 1966, preuve que cette année-là, Polnareff est partout. Nous prenons l'émission en cours, preuve que cette année-là, beaucoup de chanteurs s'appellent Michel.
Nous venons d'entendre Michel Sardou. Michel n'est pas du tout beatnik. Polnareff, lui, c'est un vrai, un pur. Premier prix de solfège au Conservatoire de Paris à 12 ans, études chez les oratoriens, piano classique, et puis l'aventure. Les nuits sur des bancs de square, au commissariat du 18e et au métro Barbès-Rochechouart, la seule station sans courant d'air où on puisse dormir tranquille, dit-il.
Christophe Comte.
Comme beaucoup de jeunes garçons et peut-être filles aussi de l'époque, mais surtout des garçons, il y a une sorte quand même d'opulence. Il y a un vent de liberté qui souffle partout dans le monde et ces jeunes garçons, partout dans le monde aussi, vont partir sur les routes, vivre leur vie, rencontrer des filles. Et puis, évidemment, la chose la plus attirante dans tout ça, c'est de faire de la musique quand on est un peu doué. Et donc, ils commencent à jouer de la guitare. Bon, c'est assez célèbre et documenté maintenant, il a commencé par faire la manche, quoi. Donc c'est vraiment c'est presque une sorte de film, quoi. On le voit très bien. En plus, il a ce look un peu romantique, les cheveux longs. Donc voilà, il vit un peu dans une espèce de fantasme, fasciné à la fois par Dylan et puis par ce qu'il entend en provenance d'Angleterre. Paul Naref, c'est quelqu'un qui voulait faire carrière à Londres, parce qu'il n'en avait rien à faire de la musique française. Il était fasciné par ce qui était en 65-66 vraiment le boom du British rock, quoi.
Donc Paul Naref n'aime pas les adaptations en français de tubes américains ou anglais. Et Paul Naref aime les Beatles, les Rolling Stones, les Kings. C'est en Angleterre qu'il a voulu enregistrer son premier tube, avec Jimmy Page à la guitare et John Paul Jones à la basse, deux musiciens du futur groupe Led Zeppelin. Dans sa version originelle, la poupée qui fait nom est en anglais. She says, Paul Naref finit par chanter en français, c'est Frank Gérald qui a déjà bossé pour Petula Clark ou Dalida qui signe le texte. Au milieu des années 60, le monde se divise en deux catégories, ou presque. D'un côté, les beatniks, de l'autre, la société. Deux ans avant mai 68, et dans Discorama, Michel Paul Naref donne sa version des forces en présence.
D'un côté comme de l'autre, personne ne cherche à comprendre l'adversaire. Eux, ils ne veulent pas s'insérer dans cette société parce qu'elle est pleine de principes, et cette société ne veut pas toujours aller jusqu'à eux. J'estime qu'un garçon qui a son père qui a travaillé toute sa vie pour un salaire de misère et qui tout à coup réalise qu'il va avoir la même vie et qui se révolte et qui mène cette vie sur les berges de la Seine, c'est très très bien parce qu'il refuse cette image qu'il a connue. Enfin, c'est-à-dire, je me considère beatnik, si vous voulez, dans la définition que je donne moi. Ma définition, c'est-à-dire, fais ce que voudra un peu en prenant un peu. Moi, je n'ai pas, si vous voulez, la possibilité de me révolter, puisque depuis le départ, tout le monde a été très gentil avec moi. Ça m'ennuie presque un peu, parce que du jour au lendemain, les gens ont trouvé mes chansons bien.
Il est des mots qu'on peut penser, mais à pas dire en société.
Il y a une ambiguïté, les années 60 en France, et aujourd'hui on les voit comme une sorte de paradis, mais enfin c'est encore une fois, quand il fait L'amour avec toi, par exemple, c'est un morceau qui fait scandale, parce qu'il parle de cette société complètement sclérosée, qui est celle du général de Gaulle. On est encore dans la France en noir et blanc, avant 68, et lui, c'est une sorte de romantique un peu déjà provocateur, là, provocateur un peu à demi-mot et à mot couvert, mais malgré tout, ces chansons, à l'époque des années 60, très souvent, certaines d'entre elles ne sont diffusées qu'après 22 heures à la radio, parce qu'elles sont trop sulfureuses.
Et il me semble bien que même après 22 heures, c'est la première fois à la radio française qu'on entend l'expression « faire l'amour dans une chanson ». Polnareff a 22 ans.
D'aucuns diront ne peut pas parler à une jeune fille comme ça. Cela le font, mais ne le disent pas. Moi, c'est un rêve, et ce soir, c'est pour ça. Que moi je veux faire l'amour avec toi. Que moi je veux faire l'amour avec toi. Oh 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 oh.
Il y a sa singularité vocale aussi.
Oui, alors ça, c'est aussi la caractéristique de Polnareff, c'est qu'il n'a pas une voix comme à l'époque les chanteurs de rock, entre guillemets, en avaient, c'est-à-dire plutôt une voix mâle, plutôt Johnny Hallyday, quoi. Lui, il a une voix qui est vraiment androgyne et qui induit aussi une forme d'écriture assez délicate, notamment justement ses chansons que sont Mes regrets, I'm Calline, qui sont des chansons en plus qu'il écrit lui-même, texte et musique, parce qu'on parle toujours des auteurs qui ont écrit pour Polnareff, mais il a écrit un certain nombre de chansons lui-même et pas n'importe quoi. C'est-à-dire que I'm Calline ou Mes regrets sont probablement deux des plus grandes chansons pop des années 60. Il est au-dessus, il plane au-dessus de tout le monde. En 67, c'est vraiment son état de grâce, quoi. Et là, il y a quand même, dans cette voix, quelque chose de très singulier. Alors, l'autre, évidemment, c'est Christophe. C'est un peu les deux qu'on met toujours en parallèle à cette époque-là, qui ont cette part de féminité en eux.
I'm Calais, je cherche un cœur libre tous les jours, toutes les nuits. Calais, ma frémie tout près du soleil, près des étoiles, pour le gîte, pour la vue, ou peut-être plus, pour la peut-être moi, I'm Calais, je suis calé libre tous les jours, toutes les nuits, pour la vie. I'm Calais, offre-nous tout près du soleil, près de toi.
Chez Polnareff, ce maniérisme dans sa façon de s'allonger un peu, d'allonger les voyelles, c'est presque précieux.
C'est presque suranné, on pourrait dire. Hein. Mais à l'époque, encore une fois, en Angleterre, et même aux États-Unis, dans ce qu'on appelle la pop baroque, que quelque part Polnareff va faire sans le savoir, il y a vraiment ça, c'est-à-dire que l'utilisation d'instruments qui n'étaient pas faits pour le rock, c'est-à-dire la plupart du temps des clavecins, des cordes, des cuivres, tout ça, dans le rock et la pop, c'est les Beatles qui l'ont amené, mais en 67, 68, 69, c'est devenu un courant qui était vraiment important. Et ce qui est paradoxal avec Polnareff, c'est qu'il est parfois un peu dans tous les registres, c'est-à-dire qu'il a des morceaux qui sont assez rock, il a des morceaux très sophistiqués, très élaborés, avec des belles orchestrations, et puis il a aussi des chansons gag. Il a un humour parfois un peu enfantin, et il accepte de chanter des conneries, quoi.
Qu'est-ce que tu veux ? Demande le parolier Pierre Delanoë. N'importe quoi, je m'en fous.
lui répond Polnareff. Cette conversation va donner lieu à la chanson « Y'a qu'un cheveu ». Là, nous sommes en 1968.
Y'a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, et n'y a que le temps, et n'y a que le temps. Et y'a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, et n'y a que le temps dans la mâchoire à Jean.
Bon, ça faut dire qu'à l'époque, ils sont obligés de faire beaucoup de morceaux, donc forcément, il y en a quelques-uns qui passent un peu à travers, quoi. Mais dans l'ensemble, sa production est merveilleuse, et puis au milieu, il y a des choses un peu ringardes.
Studio Barclay de l'avenue Hoche. 5000 bougies sont allumées et des tentures de velours noir sont accrochées au mur, selon les exigences de Polnareff, pour enregistrer. Cette chanson-ci fait partie des merveilles. Une marche funèbre, sans batterie, ni guitare. Ça s'intitule « Le bal des Lazes ». Le texte est de Pierre Delanoë.
Je serai pendu demain au jour, dommage pour la fille de ce château, car je crois qu'elle aime bien l'amour que l'on faisait tranquille loin du château. Château de Laz, pour les 20 ans de Jane, Lord et Lady de Laz avaient reçu la reine. Moi, le fou que l'on toise, moi, je crevais de haine, caché dans le jardin. Moi, je serrais les poings, je regardais danser.
Le bal des Lazes, c'est l'histoire d'un vagabond qui, en gros, a commis un crime de jalousie parce qu'il y avait des gens dans un château, donc des gens qu'on imagine très riches. En tout cas, voilà, c'est la chanson du condamné à mort devant cet immense tableau, encore une fois, assez baroque d'un château et de quelque chose auquel il n'a pas accès. Et ça, c'est un thème qu'on retrouve beaucoup en Angleterre aussi, dans les chansons de classe sociale, c'est-à-dire que chez les Kinks, il y a vraiment ça. Donc là, on est vraiment dans du Polnareff, voilà, de grande envergure, parce que c'est un morceau qui non seulement va traverser les époques, mais qui déjà à l'époque est un monument, quoi, un chef-d'œuvre en 5 minutes, qui a une sorte de scénario, de film qu'on imaginerait tourner par... je sais pas moi, Lozé ou peut-être même Kubrick, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Je serai pendu demain matin, ça fera 4 lignes dans les journaux. Je ne suis qu'un vulgaire assassin, un vagabond indigne de ce château. Dans le château de Laz, peut-être bien que Jane, à l'heure où l'on m'écrase, aura un peu de peine. Mais ma dernière phrase sera pour qu'on me plaise, lui donner un autre fiancé, et que je ne pourrais pas supprimer celui-là.
Juin 1970, Michel Polnareff est en concert à Rueil-Malmaison. Pendant le spectacle, un spectateur monte sur scène, le frappe au bas-ventre, au visage, et le traite de pédé.
Et c'est là où ça commençait à parler du tout.
Extrait de Polnareff Intime, documentaire diffusé le 6 janvier 1972. L'interview est menée par Pierre Vigne.
Est-ce que vous avez l'impression, à ces périodes qui semblent difficiles à traverser, d'après ce que vous dites, est-ce que vous avez l'impression d'être un petit peu à la frontière de quelque chose, que vous pourriez basculer d'un seul coup ?
J'ai déjà basculé, moi j'en reviens, hein, parce que j'ai basculé au moment où j'ai eu cette dépression nerveuse et où j'ai dû faire cette cure de sommeil, où je suis arrivé à l'hôpital le 14 juin, et puis le lendemain matin, je suis allé dans le bureau de l'infirmier, et c'était le 15 septembre. Là, ma première impression, comme quoi on est très égocentrique dans ces cas-là, j'ai dit, quoi, le monde a continué à tourner pendant que moi, j'existais plus. Il s'est passé des choses, il y a des gens qui ont dormi, fait l'amour, mangé, ça a continué. Et c'est là où on se rend compte qu'on se prend vraiment pour le centre du monde.
En 1970, Michel Polnareff éprouve la nécessité d'affirmer son identité sexuelle en chanson avec « Je suis un homme » dont il signe les paroles.
La société ayant renoncé à me transformer, à me déguiser pour lui ressembler. Les gens qui me voient passer dans la rue me traitent de pédé, mais les femmes qui le croient n'ont qu'à m'essayer. Je suis un homme, je suis un homme. Quoi de plus naturel en somme? Pour lui, mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, je suis un homme, comme on en voit dans les muséums. Un Jules, un vrai, un bout en train, toujours prêt, toujours gay.
Vous avez un côté petite fille modèle qui d'un secours serait plus modèle.
Écoutez, je préférerais plutôt avoir un côté petit garçon modèle, personnellement.
N'êtes pas pédé, autrement dit.
Ah non, pas du tout. Alors là, je m'en excuse pour les gens qui le souhaiteraient. Non, pas du tout. Quand je rentre dans un endroit, c'est pédé, bon. Et je répète un truc que je dis toujours, si j'étais pédé, je le dirais.
J'ai pris ma plus belle voix et j'ai déclaré.
Il revendique fièrement une masculinité. Bon, c'est pas une chanson très habile, hein. Franchement, elle est pas très réussie, mais en tout cas, probablement que ça le gêne, quoi. Mais on sait pas trop pourquoi. On comprendra peut-être pourquoi bien plus tard, quand il développera ce côté bodybuildé, très macho par moment. Donc là, oui, mais sa délicatesse de l'époque, c'est ce qui fait sa force. C'est ce qui fait qu'il est absolument merveilleux. Il y a quelque chose chez lui qui est d'une sorte de flamboyance qui n'existe pas ailleurs, quoi. Et autant des gens... Des gens comme Bowie, comme Marc Bolan et tout ça vont jouer à fond cette carte de la féminité ou de l'androgynie, en tout cas de cette sorte d'ambiguïté homme-femme, parce que l'époque voulait ça. Autant Polnareff, il est jamais très à l'aise avec ça.
Malgré les cures de sommeil et les agressions homophobes, Michel Polnareff affirme son triomphe au début des années 70. Il n'est plus seulement le symbole d'une jeunesse en marge, il a un nouveau statut, celui de la pop star. Et il fait partie de ceux qui incarnent des extravagances qui n'ont plus cours aujourd'hui, mais qui racontent les excès des 70s. Essayer sa Harley Davidson dans son appartement, entrer dans la réception de l'hôtel Concorde Lafayette en Rolls-Royce, se faire virer parce que toutes les filles nues invitées dans sa chambre, ça fait trop de bruit. Voilà pour la mythologie. Pour ce qui concerne la musique, Polnareff est encore sur un nuage. Christophe Comte.
L'année 71, par exemple, chez Polnareff, il aligne quand même deux BO de films qui sont assez géniales parce qu'elles sont très différentes. Il y a « Ça n'arrive qu'aux autres », film de Nadine Trintignant, où il fait une chanson qui est sublime. Et puis il y a la BO de La Folie des Grandeurs, hein, de Gérard Oury, inspiration Ennio Morricone, donc là, beaucoup de souffle western un peu, et surtout cet album qui s'appelle Polnareff, qui sort également en 71, et qui est son premier album en tant que tel, puisque les autres étaient des compilations de EP. Là, il sort un album maîtrisé d'un bout à l'autre, qui est... aujourd'hui, avec le recul, considéré comme un chef-d'œuvre, quoi. C'est-à-dire que là, il donne tout ce qu'il a. C'est-à-dire qu'il y a des instrumentaux, il y a des morceaux un peu bizarres, il y a des trafics de voix. C'est la même année que Melody Nelson de Gainsbourg, et c'est à peu près du même niveau, même si c'est très différent. On peut considérer que là, il a atteint un niveau artistique absolument phénoménal.
Cet album, paru en 1971, c'est Polnareff's, Titre à l'anglaise donc, parce qu'il enregistre le disque à nouveau à Londres. À nouveau aussi, c'est Jimmy Page, musicien de Led Zeppelin, qui tient la guitare. Polnareff mélange jazz, pop électrique, synthétique et musique soul. Ce morceau-ci, c'est Computer's Dream.
La construction du disque est assez géniale. Puis il y a Computer's Dream qui est encore un morceau instrumental. Et là, pareil, quand même, rêve d'ordinateur, quoi, en 71. Qui parle d'ordinateur? Personne. Donc là, il est quand même pas mal d'avant-garde. Et il y a cette chanson qui s'appelle Qui a tué grand-maman et qui est destinée à Lucien Maurice, qui était le patron d'Europe 1 à une époque. Qui avait par ailleurs une double casquette, qui était le directeur artistique des disques AZ, et c'est lui qui a signé Michel Polnareff et Lucien Maurice en 71, enfin un peu de temps avant, en 70 je crois, s'est suicidé. Donc il y a cette chanson qui s'appelle Qui a tué grand-maman, qui est destinée à Lucien Maurice. Donc voilà, il y a plein de choses sur ce disque. C'est le disque de Polnareff, le premier disque de Polnareff, qui s'écoute vraiment comme un programme.
Il y avait du temps de grand-maman, des fleurs qui poussaient dans son jardin. Le temps a passé, seul restent les pensées, et dans tes mains il ne reste plus rien. Qui a tué grand-maman? Est-ce le temps ou les hommes qui n'ont plus le temps de passer le temps? La 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 la.
France Inter, il est 19h.
Nous sommes le 6 octobre 1972.
Interactualité Magazine, édition du soir, Dominique Bromberger.
Bonsoir. Pendant 3 semaines, Michel Polnareff va être à l'affiche de l'Olympia. Une affiche insolite qui a fait beaucoup parler d'elle. Je ne vous le parle pas de la vedette elle-même, mais plutôt des panneaux publicitaires que tous les Parisiens peuvent voir en ce moment sur les murs de la capitale. On y découvre un Michel Polnareff méconnu. Les gens s'arrêtent même devant, Pascal Delannoy en a fait autant.
Je trouve ça très chouette. Mettons que ça soit un défi peut-être un petit peu de sa part, mais je pense qu'il a raison.
Et évidemment, il a voulu faire de l'original, mais... À mon avis, c'est un peu choquant quand même. S'il continue dans cette voie, qu'est-ce qu'on verra la prochaine fois?
Mais ce qu'on voit sur les murs de Paris à ce moment-là, c'est Polnareff avec ses lunettes à monture blanche et une robe de mariée qu'il relève sur son cul nu. L'affiche annonce une série de concerts à l'Olympia.
Certains de vos fans regardent les affiches. Ouais. Je les ai vues tout à l'heure. Ouais. Et les réactions sont assez amusantes. Alors.
Bah justement, les réactions sont amusantes et c'est ça qui est bien parce que je crois qu'il ne faut pas prendre l'affiche au sérieux. Il faut la prendre comme une rigolade. C'est tout.
L'idée vous est venue quand et comment?
Alors, l'idée m'est venue dans le studio de photos. On est en train de s'ennuyer prodigieusement à faire des photos classiques. C'est que j'ai dit merde, il y en a marre. Faisons quelque chose de drôle, on a cherché et puis on a fait ce truc-là. Avant tout, pour moi, une affiche, c'est quelque chose qui doit se voir. Et je crois que de ce côté-là, on a bien réussi ce qu'on voulait.
On fait ça se voir.
Ouais.
On vous accusera peut-être de provocation facile.
Bon, écoutez, il faut pas m'accuser de provocation facile, il faut m'accuser de provocation au sourire, parce que c'est pas mal.
C'est rare aujourd'hui.
Bah oui, parce que plus personne s'amuse.
Et ce qui est quand même assez génial, c'est qu'on est en 72. On a l'impression que 68 est passé par là. Et pourtant, c'est un scandale national énorme. Il est quand même condamné pour atteinte à la pudeur et pornographie quand même. Hein. C'est pas rien. Mais en revanche, là où il a un sens quand même du buzz hein, avant l'heure et du marketing, c'est que c'est une image évidemment qui va faire que ses concerts vont être mythiques. C'est-à-dire que les concerts de 72, le spectacle avec les costumes de Paco Rabanne, enfin tout ce décorum incroyable, c'est un triomphe. Donc, quelque part, il a réussi son coup. Il a une phrase très drôle, moi, dans une interview que j'ai faite, il a dit « Il y a des gens dans le monde qui connaissent plus mon cul que ma musique. » C'est vrai, parce que cette image a fait le tour du monde. C'est devenu une image qui a été détachée de Polnareff d'une certaine manière. Il y a des pays où il y a, enfin, ça doit exister en carte postale, quoi. C'est un peu comme Sylvia Christel, quoi. Il est.
Je suis une mouche posée sur sa bouche. Elle était nue, on aurait cru le paradis, tant elle était jolie. Je suis une mouche posée là sur sa bouche. Je n'avais Dieu que pour elle, mais elle voulait que je me tire à tire d'elle sur ses lèvres. Moi, j'avais décidé de ne plus jamais m'envoler sur ses lèvres. Moi, j'avais décidé de ne plus jamais m'en aller. Mais que fait donc cette mouche posée là sur ma bouche? Demanda-t-elle au peintre qui lui dit comme c'est joli de voir cette mouche dessinée sur ta bouche. Et moi j'aurais tout donné, oui tout donné, pour pouvoir l'embrasser sur ses lèvres. Moi j'avais déposé le coudou des plus doux baisers sur ses lèvres. D'une gifle elle m'a tué, croyant que je voulais la piquer. J'étais une mouche posée sur sa bouche. On aurait cru le paradis tant elle était jolie. Je suis une mouche écrasée sur sa bouche. Il ne faut pas dire aux femmes qu'on les aime, sinon elles deviennent piquées. Sur ses lèvres, moi, je m'étais posé pour lui dire que je l'aimais. Mais les femmes, moi, je m'étais pas méfié. C'est un peu tard, vous me direz. C'est un peu tard, vous me direz. C'est un peu tard, vous me direz. Une mouche posée sur sa bouche. Je voulais seulement l'embrasser, mais elle a cru que j'allais la piquer. Que c'est dur d'être une mouche, tant d'autres que vous prennent la mouche. De moi il ne reste qu'un point sur un tableau, comme le ciel est loin. Sur ses lèvres, moi je m'étais posé pour lui dire que je l'aimais. Mais des fois moi je ne m'étais pas méfié. Une mouche c'est vraiment bête à tuer. C'est vraiment bête à tuer. Une mouche, c'est vraiment bête à tuer.
France Inter, Rebecca Manzoni, Pop & Co.
Ce matin et jusqu'à midi, Pop & Co et Michel Polnareff. L'Australien Nick Cave l'a chanté, l'Anglais Jarvis Cocker aussi. Et ça s'est fait grâce à Bertrand Burgala, auteur, compositeur, interprète et producteur. Parce que Bertrand Burgala a piloté un album de reprises de chansons de Polnareff. Le disque est sorti en 1999.
Je suis né en 63, donc je le voyais à la télévision. Et tout ce que je voyais un peu le dimanche après-midi ou le samedi soir à la télévision, quand j'avais 10-12 ans, c'était pas le monde des parents, c'était un peu plus jeune, mais ça me fascinait pas, Gérard Lenormand, et c'est très injuste parce que souvent c'était des très bonnes chansons, mais je me souviens quand même d'avoir entendu une chanson Holiday. Et je comprenais pas, d'ailleurs je croyais que c'était une chanson sur Johnny Hallyday, je me disais tiens, il fait une chanson sur son copain. Cette chanson m'avait frappé quand même. Moi, je réagis d'abord à la musique, mais là, le texte de Jean-Louis Dabadie, je le trouve incroyable, parce que c'est à la fois d'une noirceur, d'une mélancolie, des églises et des HLM. Et derrière, il y a une musique avec de la guitare slide. Enfin, je trouve ce morceau poignant, très beau. Il y a énormément de chansons de Polnareff que j'adore, mais celle-là tout particulièrement. Donc c'est plus tard, dans les années 80, au fur et à mesure que je trouvais que la musique se retrécissait d'une certaine façon, ça a été une des portes d'entrée pour moi sur la chanson française. Il y a eu Gainsbourg et Polnareff. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais il y a eu des trucs géniaux que j'avais complètement loupés.
Été 1973. Michel Polnareff rentre d'une tournée mondiale et récupère sur la Côte d'Azur. Un jour, il rentre chez un libraire, veut régler son achat, mais c'est non. Le paiement lui est refusé. À partir de là, il va de découverte en découverte. Bernard Senot, l'homme à qui il avait confié ses affaires, est parti avec la caisse. Non seulement Polnareff est ruiné, mais Bernard lui a laissé quelque chose. Un arriéré d'impôt, montant 1 million de francs. Alors c'est la panique. Pour éviter la prison, Polnareff s'enfuit à bord du paquebot France, direction les États-Unis. Il publie un album de transition entre la France et l'Amérique avec l'arrangeur Jean-Claude Vanier et il est accueilli en prince par le label Atlantique, maison de disques prestigieuse qui compte les Stones, Ray Charles ou Aretha Franklin. Écœuré par ses mésaventures en France, Polnareff pense ne plus jamais chanter dans la langue de Molière. Il publie Fame à la mode, son album américain, et se convertit au disco, avec brio, en composant la bande originale que vous entendez en ce moment. C'est celle du film Lipsticks. C'est un succès vu que le titre passe en boucle dans les discothèques. Et puis...
Coucou me revoilou.
Oui, Coucou me revoilou. C'est le titre de l'album qu'il publie en 1978. Le disque annonce son retour en France. Enfin, le premier retour, celui d'une longue série. Christophe Comte.
Il revient avec un procès quand même où c'est pas très rigolo pour lui parce qu'il se retrouve avec 1 million de francs de dette sur le dos, hein, de dette fiscale. Donc des disques, il va falloir qu'il en vende pour éponger tout ça. Et Coucou me revois loup n'est pas forcément un disque qui marche très bien, mais en tout cas, il le remet quand même... d'une certaine manière, il rechante en français, et puis bon, il a un public, Polnareff. Donc, c'est un disque où on a le sentiment qu'il revient enfin en France, quoi.
En 1978, la justice déclare Michel Polnareff non coupable et victime d'escroquerie. Ses retrouvailles avec son pays natal sont mises en scène avec cette chanson magnifique. Lettre à France, dont les paroles sont écrites par Jean-Loup Dabadie. Bienvenue dans les années 80.
C'était génial dans les années 60 et 70 quand il parvenait tout à fait à coller au son de l'époque. Et le début des années 80, malheureusement, le son, c'est le son FM. Et là, il n'a pas le recul. Je pense que c'est la musique qu'il aime. Il doit écouter des choses qui sont du rock FM. Ça tabasse un peu. C'est le côté les premiers synthés un peu vulgaires, les boîtes à rythme et tout. Et donc, effectivement, on dégringole de plusieurs étages. Hein. C'est-à-dire qu'on passe de quelque chose qui ressemblait à rien d'autre à quelque chose, finalement, l'album Bulle, qui ressemble à tout le reste, quoi. Même si c'est Polnareff, c'est un gros pudding, pas forcément très attrayant pour moi, je trouve, en tout cas. Mais en tout cas, à l'époque, il attire beaucoup de gens.
Et là, il est 20h. Pas sur France Inter, mais sur Antenne 2. Nous sommes le 28 février 1990. Le journal est présenté par Hervé Claude.
À quoi ressemble Polnareff ? Michel de son prénom, c'est la vedette la plus secrète de la chanson française. Exilé des années aux États-Unis, ça vous le savez, revenu en France mais caché dans une chambre d'hôtel. Michel Polnareff n'en finit pas de faire parler de lui sans se montrer.
Ça a duré 801 jours. 801 jours, cloîtré au Royal Monceau, un palace 5 étoiles. Le tout payé rubis sur l'ongle par la maison de disques. Ce qui raconte le budget de l'industrie musicale de l'époque. C'était en 1990. Au Royal Monceau, Polnareff conçoit un nouvel album et vit dans la peur panique de devenir aveugle. La chanson qu'on retient, c'est « Goodbye Marilou ». La légende dit qu'il s'agit du prénom de la standardiste de l'hôtel. Les paroles, signées Jean-René Mariani, évoquent un amour en distanciel, donc par écran interposé. En 90, il n'y a ni Covid, ni Internet, ni Zoom, mais il y a les messageries Minitel.
Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Tous les mots sont voix qu'on se dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour celle qui me répondra au cas pour un rendez-vous.
On se disait alors, et pour la énième fois, le voici donc de retour ici. Mais non, il est reparti.
Je suis arrivé à Châteauroux et je suis enfermé dans un petit bureau. Là, on enregistre ou pas ?
Oui, absolument.
Ah d'accord.
Au bout du fil pour Pop & Co, voici Michel Denisot. En 1996, Canal+ consacre une soirée spéciale à Polnareff, qui ne s'était pas exprimé à la télévision depuis une dizaine d'années. Et Michel Denisot en assure la présentation. L'organisation de l'interview prend plusieurs mois. Ça se passera à 45 minutes de Los Angeles à vol d'oiseau, enfin, à vol d'hélico.
Disons quoi, à cette époque-là, on commençait par parler de projets et d'idées de faire des émissions de télévision, sans parler d'argent tout de suite, on en parlait après. Quoi. Donc, et si l'idée était bonne et qu'on avait les moyens, on le faisait. Donc on avait deux hélicoptères pilotés par des pilotes cascadeurs de cinéma d'Hollywood, et puis donc l'idée c'était de faire cette interview seul, tous les deux dans le désert. Et puis après, de faire arriver, c'était le luxe évidemment, de faire arriver un piano à queue par hélicoptère, et que le piano se posait dans le désert. Il chantait seul dans le désert, mais c'est comme s'il y avait des millions de gens, quoi.
Michel Polnareff, bonjour.
On
ne vous a ni vu ni entendu à la télévision française depuis plus de 10 ans.
Absolument.
Et vous gardez ces lunettes Polnareff. Est-ce que vous les gardez parce que ça fait partie de votre image de marque, ou parce qu'il y a du soleil ici? Alors qu'habituellement, je vous ai vu ces derniers jours, vous vous promenez dans Los Angeles sans lunettes.
Oui, parce qu'il pleuvait un peu à Los Angeles. Et ce qui arrive
faux. On peut voir votre regard.
Quand je portais les lunettes au début, c'était pour me protéger. Maintenant, ces lunettes sont faites pour protéger le public contre mon regard. Vous voulez que je vous montre ?
Ouais.
Alors, Polnareff enlève ses lunettes. Et deux rayons laser bleus sortent de ses yeux.
Alors, il a une très mauvaise vue. Il a choisi de la mettre en scène d'une certaine manière, c'est-à-dire d'avoir ses lunettes blanches, sombres. Et donc, ce look, d'emblée, début des années 70, c'est son look, quoi. Il a imposé un personnage, un peu comme le faisait Bowie ou Elton John, d'une certaine manière, en ayant une image très forte, c'est-à-dire qu'une image qui devance même la musique. Je pense que quelqu'un qui n'écoute pas du tout de variété française, il sait qui est Polnareff. Et ça, c'est génial, quoi. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens comme ça qui ont cette notoriété liée à une image.
Michel Denisot.
Il est le champion de « je suis là, je suis pas là ». Christophe m'avait raconté une anecdote qui date aussi, mais une époque où les Champs-Élysées, on pouvait rouler vite et éventuellement griller des feux. Ils étaient en Lamborghini tous les deux. Christophe conduisait, ils aimaient des voitures, ils étaient déjà des grandes vedettes. Et ils grillent un feu rouge, ils se font arrêter. C'est Christophe qui conduisait, les gendarmes arrivent. Et Christophe tourne la tête et Paul Naref était déjà plus là. Il apparaît quand il veut et je lui ai envoyé un message le prévenant que vous faisiez cette émission, que j'allais y participer, pour lui demander, je vérifiais bien, c'était Love Me, Please Love Me qu'il avait joué, j'en étais à peu près sûr, mais enfin, c'est une occasion de lui dire bonjour. En fait, il m'a appelé par Skype et me disant qu'il était en Floride, ce que je crois, parce qu'avec lui, j'ai toujours un doute sur ce qu'il dit, parce qu'il joue beaucoup avec tout, en fait. Parfois, la réalité n'est pas ce qu'il raconte. Et donc, on a échangé un peu sur comment ça va, quoi. Et donc, il m'a dit que le Covid n'existait pas, bon, très bien, et qu'il y avait des rhumes et des grippes. Et il m'a dit qu'il allait rechanter, ça sera retransmis au Palace, depuis chez lui, depuis la Floride, et retransmis donc sur écran en direct à Paris. Ce qui est étonnant, et c'est parce que ces chansons ont un style, une force évocatrice énorme, je pense qu'elles sont toujours très contemporaines, ces chansons font qu'on a l'impression qu'il est toujours là déjà, évidemment, et puis qu'il n'est pas parti. Voilà, donc c'est un luxe dans lequel il vit.
Love me. Please love me. Je suis fou. Silence, vos yeux pleins d'ennui, nul espoir n'est permis. Pourtant, je veux jouer ma chance, même si je devais.
Merci à Christophe Comte, Bertrand Burgala et Michel Denisot pour leur participation à ce Pop and Polnareff, Pop Rock en stock. C'est le titre d'une intégrale de ses chansons qui réunit 430 titres avec des lives, des documents sonores inédits. Et selon nos informations, Michel Polnareff sera en concert au Palace à Paris à partir du 5 mai, tous les vendredis et samedis soirs. Et comme nous sommes en 2022, il jouera depuis chez lui, en Floride, ou peut-être depuis la Californie. Eux sont en chair et en os sur scène. Et pour les concerts, ils sont parmi les meilleurs du moment. Le groupe Feu Chatterton est en tournée et dans Pop & Co, maintenant.
Moi, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il de sauvage? Dis-moi, que reste-t-il? Ouais, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? Adieu vieux monde adoré. Adieu vieux monde adoré. Une image oubliée sur un bout de papier. Un quoi? Si punk, iroquois, crypto-chat, bikini turquoise. Où suis-je sur la toile? Ah ouais, j'appelle à l'aide mais je ne sais ni qui ni pourquoi. Bikini turquoise, ni qui ni pourquoi. Bikini turquoise, où suis-je sur la toile? Ah ouais. Voilà.
reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? Que reste-t-il? La petite fille téléguide, un vol des tourneaux, ça te plaît? Assoiffé de cristaux liquides, devine combien de vues ça lui fait. Ok Google, quel est-il celui auquel on sacrifie? Certains disent qu'il eut un fils. Quant à moi, je n'y crois pas. Non, moi, je caresse ton visage sur mon écran tactile.
Programme de Pop & Co les prochaines semaines, il y aura Arnaud, puis Stevie Wonder, puis l'histoire d'une épopée, celle d'Eddie Barclay. Koy Nguyen a réalisé cette émission avec Mathias Aléon ce matin. Ilinka Negulesco trouve les sons, la doc et les participants. JB Audibert assure la programmation musicale. Comme je vous ai déjà annoncé les affiches des semaines à venir, il me reste juste à vous dire à samedi.